BPM, élection municipale 2020.
Bonjour et bienvenue sur BPM, il est 8h30. Le second tour des élections municipales aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'à demain des émissions spéciales. Les candidats en lice pour le second tour de Mantes-la-Ville viennent répondre à nos questions aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Naute. Cyril Naute, maire sortant de Mantes-la-Ville, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 38 ans, vous êtes professeur de lettres, histoire, géographie au lycée, dans un lycée professionnel. En 2014, vous avez été élu maire de Mantes-la-Ville. Vous êtes candidat à votre propre succession. Vous conduisez la liste Rassemblement pour Mantes-la-Ville, soutenue par le Rassemblement National. Alors, on va rappeler les scores du premier tour. Vous arrivez premier avec 33,72%. Deuxième, Samida Mergi avec 27,21%. Amitis Metzaghi, troisième avec 17,75%. Romain Carbone, 14,81% et quatrième. Et le cinquième, Éric Vizatener, 6,48%. C'est pour resituer. Alors, Amitis Metzaghi et Romain Carbone se sont retirés de ce deuxième tour. Pour Madame Metzaghi, c'est pour faire barrage au Rassemblement National. Pour Monsieur Carbone, c'est ne pas reproduire la même erreur qu'en 2014. Et Monsieur Vizatener, quant à lui, annonce qu'il vote blanc. Vous, Cyril Naute, êtes-vous content de ces résultats du premier tour ?
Écoutez, je suis satisfait d'être en tête, mais ce qu'il faut noter après cette élection, c'est qu'elle a été marquée par une forte abstention en raison du contexte sanitaire, mais comme partout en France, c'est-à-dire que beaucoup d'électeurs qui seraient venus dans un autre contexte ne sont pas venus en raison de la crainte du coronavirus.
Et alors, cette semaine, dimanche, est-ce que les mesures ont été prises pour justement inciter les gens à venir plus voter ?
Bien sûr. Alors en tant que maire moi-même, j'ai fait le maximum pour assurer la sécurité des Mantes-Villois et très spécifiquement pour l'organisation de ces élections. Il y aura tout ce qu'il faut dans les bureaux de vote, à savoir des masques, du gel hydroalcoolique, des visières et aussi des parois en plexiglas pour séparer physiquement les électeurs des présidents et assesseurs.
Alors comment vous en tant que maire avez-vous géré la crise du Covid-19?
Eh bien écoutez, dans la mesure où on n'a pas trop pu compter sur l'État, nous sommes débrouillés nous-mêmes en cherchant à récupérer notamment des masques. C'était la denrée rare, il y avait une pénurie de masques. Donc nous en avons commandé début avril et on a mis un mois à les recevoir. Mais on a pu faire une première distribution dans toutes les boîtes aux lettres le 6 mai. On a récupéré aussi d'autres types de protection et d'équipement aussi pour les agents de la commune qui ont continué à travailler malgré le confinement. Une deuxième distribution de masques a eu lieu au tout début du mois de juin. Et nous avons aussi préparé la reprise de tous les services publics et notamment des écoles.
Alors justement, revenant sur les masques, l'Union d'entraide citoyenne, vous avez eu un petit coup de gueule ? Sur cette association ?
Oui, parce que ce sont en réalité, c'est un collectif totalement inconnu qui est né dans ce contexte. Ils ont distribué des masques donnés par le département. Donc si le département avait des masques, je ne vois pas pourquoi il est passé par des associations plutôt que directement par la collectivité. En l'occurrence, le département a démontré sa nullité puisqu'il a été capable de livrer ce collectif seulement en début juin, soit près d'un mois après notre première distribution.
Non, mais le département des Yvelines a quand même distribué beaucoup de masques aux communes de moins de 15 000 habitants.
Oui, mais justement, on n'a pas eu à attendre, nous, Mantes-la-Ville, commune de plus de 20 000, après le département pour distribuer des masques. Et le problème, c'est pas la distribution des masques en soi, c'est très bien. Et à la limite, que ce soit des associations ou la collectivité, peu importe. Le problème, c'est que cette distribution était accompagnée d'un tract hostile à la collectivité. Et voilà, on sait d'où ça vient. Ça vient de Pierre Bédier qui soutient mon adversaire Samida Mergi. Et je trouve ça déplorable.
Alors, on va revenir justement aux écoles. Vous avez été une des dernières communes à réouvrir vos écoles. Pourquoi le 5 juin, c'est ça ? Ils ont rouvert ?
C'était début juin. Non, c'était le 2 juin.
Le 2 juin, ouais, autant pour moi.
Écoutez, la principale raison, en réalité, c'est ce fameux protocole sanitaire élaboré par l'Éducation nationale, très contraignant, très complexe. Il faisait plus de 50 pages et les collectivités l'ont reçu une semaine avant la reprise qui devait avoir lieu normalement le 11 mai. Et il est vrai que dans ces conditions, et vu le contexte d'inquiétude, vu le contexte psychologique à la fois des enseignants, moi j'avais appelé tous les directeurs hein, avant le 11 mai, et aussi plusieurs, et j'ai eu aussi au téléphone plusieurs parents d'élèves, vu le contexte de crainte, moi j'estimais qu'on n'était pas à quelques jours près pour cette reprise, et j'ai voulu mettre en œuvre le maximum de moyens pour rassurer les parents, pour rassurer mes agents aussi, qui travaillent au contact du public. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité maintenir cette fermeture pendant quelques jours supplémentaires pour une donc reprise d'activité sans risque au début du mois de juin.
Alors, en tant que maire sortant, ça coûte combien la crise, elle a coûté combien à la commune? Parce que je pense que si je posais la question à n'importe quel maire, il me dirait beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. On n'a pas fait un chiffrage précis, hein, mais pour vous donner une idée, la première commande de masques, ça nous a coûté près de 100 000 euros.
D'accord. Plus les désinfections des écoles, etc., les protocoles.
Ah, quand on ajoute tout, oui, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, c'est clair. Les masques, le gel hydroalcoolique, les protections en plexiglas, forcément, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Les désinfectants, etc., c'est beaucoup d'argent, oui.
Alors, on va revenir à la politique. Vous aviez accepté un débat avec votre adversaire, Samy Damiargi, sur France 3. Il a refusé. Vous avez eu des mots assez forts, hein, quand même, dégonflés. Vous l'accusez même de lâcheté.
Oui, je persiste et signe. Hein, je maintiens ces mots. Il faut savoir que Samy Damiargi s'était déjà défilé pour ce débat télévisé avant le premier tour. Il s'était fait remplacer à la dernière minute par Annette Pelvast-Berjal. Et moi, dès le début du mois de juin, quand la date du second tour a été confirmée, j'ai indiqué que j'étais prêt à accepter tous les débats face à Samy Damiargi auprès des médias qui accepteraient de les organiser. France 3 nous a contactés assez rapidement et Samy Damiargi a tergiversé pendant de nombreux jours pour finalement ne pas répondre. Je crois qu'il craignait fortement ce débat parce qu'il est incapable d'articuler deux ou trois phrases cohérentes de suite. Et je trouve ça triste pour la démocratie. Il prétend que je suis un candidat sans bilan et sans projet, sans programme. Il aurait dû alors, s'il pense ça sincèrement, me terrasser assez facilement dans le cadre d'un débat. Et je trouve triste, encore une fois, qu'il l'ait refusé.
Mais il me semble qu'il vous a proposé des micro-débats, non?
Oui, mais c'est un micro-candidat qui a un micro-projet et qui a donc proposé des micro-débats une micro-audience. C'est-à-dire que, en fait, il a voulu masquer sa crainte d'un vrai débat avec une véritable audience, notamment sur France 3 Région Île-de-France, pour proposer des débats, des micro-débats avec ses copains sans Clément Videlois puisse, dans leur majorité, assister à ce débat ou intervenir. C'est la même mascarade d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avec son grand débat après la crise des Gilets jaunes. Donc lui, comme sa micro-candidat, il a proposé des micro-débats, mais c'est la même arnaque. D'ailleurs, Macron, enfin le parti d'Emmanuel Macron soutient officiellement Samy Damiargi, ce que je tiens à rappeler.
Alors, on va terminer dans les polémiques, hein, parce qu'à Mantes-la-Ville, il y en a beaucoup hein, depuis le début de cette campagne. On va revenir sur l'article paru sur leparisien.fr du 23 juin dernier, où on accuse pas encore, on explique que votre colistier a demandé à une dame qui avait des problèmes à la hanche, une procuration, alors que ses enfants habitaient pas là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez là, vous?
Alors moi, je n'étais pas là, mais j'ai évidemment toute confiance en Laurent Morin, qui est mon premier adjoint. Pour être précis, je tiens à rappeler que cette info est sortie n'a pas été sortie par Le Parisien, mais par un site internet qui s'appelle Temps Réel 78, qui est dirigé par Labi Bedaoudi, qui est le directeur de campagne de mon adversaire Samy Damiargi. Donc ça peut amener à faire réfléchir les gens. Et sur cette histoire, on a parlé tout à l'heure du contexte sanitaire qui a provoqué, notamment au premier tour, une assez forte abstention. Donc, nous avons décidé d'axer notre campagne sur la mobilisation. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre premier tract pour le second tour, nous avons rappelé au Mantes-Villois qu'il pouvait établir une procuration. Et en l'espèce, dans le cas présent, Laurent Morin, qui a croisé pendant une opération de distribution de tracts dans les boîtes aux lettres cette dame. Il a rappelé à cette dame qu'elle avait la possibilité d'établir une procuration. Et pour des raisons que j'ignore, ou que je ne suis pas parvenu encore à déterminer, des parents de cette dame ont dénoncé cette opération qui était tout à fait légale. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté ou une quelconque volonté de forcer la main de cette dame. Donc pour moi, c'est un non-événement.
Justement, parlant de procuration, je demande au maire sortant, il y a des conditions un peu particulières hein, pour avoir, enfin,
oui.
Pour cette élection.
Oui,
elles ont été assouplies.
Les règles ont été assouplies pour faciliter le vote, hein, pour que chaque mandevillois puisse accomplir son devoir civique. Chaque électeur pourra avoir deux procurations. J'aurai moi-même deux procurations, donc j'aurai le bonheur de voter trois fois pour moi, ma propre voix et juste deux procurations.
Allez, on va revenir à votre programme. Vous voulez être un maire encore plus accessible?
Oui, je pense que je l'ai été bien sûr pendant les 6 ans de mandat, mais je veux l'être encore davantage. Et comme première mesure symbolique dans mon projet, je propose de mettre à disposition un numéro de téléphone personnel et une adresse mail pour que chaque mandevillois puisse m'interroger ou m'interpeller directement. C'est vrai que parfois l'usager des services publics est confronté à la lenteur de l'administration, au méandre de l'administration, comme on dit parfois. Donc je veux que chaque mandevillois puisse m'interpeller directement.
Vous souhaitez également ne pas augmenter les impôts et privilégier les investissements obligatoires et d'intérêt général.
Bien sûr, c'est ce que j'ai fait pendant les 6 dernières années. C'est d'ailleurs une de mes très grandes fiertés d'avoir à la fois pu ne pas augmenter les impôts, nous avons maintenu les taux, et donc privilégié les investissements d'intérêt général, notamment sur le scolaire. Hein. Je vous avais déjà dit lors d'une précédente interview qu'on avait consacré près de la moitié de nos investissements au scolaire, la remise aux normes, amélioration des locaux scolaires. Et je souhaite proposer donc pour le second tour une baisse de la fiscalité, une baisse de 5% de la taxe foncière pour améliorer le pouvoir d'achat des mandevillois suite à cette crise sanitaire qui aura aussi, on en reparlera peut-être après, des conséquences économiques.
Ben oui, puisque l'usine Renault, par exemple, à côté, hein, Flin, prévoit la suppression de 1000 emplois. 1000 emplois, ça fait beaucoup hein, sur le Mantois et dans la région.
C'est énorme, ce serait une véritable tragédie. Ça fait d'ailleurs des mois qu'on en parle et malheureusement, la crise sanitaire n'a sans doute pas amélioré les choses. Et au-delà de chômeurs potentiels en plus, ce dont il faut aussi avoir conscience, c'est que Renault est un des principaux contributeurs en matière de fiscalité des collectivités. C'est-à-dire que si, par malheur, cette usine venait à fermer, ce serait des millions d'euros en moins pour les collectivités qui perçoivent la fiscalité des entreprises. Donc c'est très inquiétant. Et justement, les candidats, comme un peu mon adversaire, qui ont élaboré un programme qui est fondé sur la dépense publique et sur le recours à l'aide exceptionnelle ou à la subvention des autres collectivités, eh bien écoutez, si Renault venait à fermer, il se trouvera en grande difficulté, car je ne vois pas comment la communauté urbaine ou le département pourrait donner des subventions mirobolantes à la commune de Mantes-la-Ville ou à d'autres mairies si jamais cette usine Renault venait à fermer.
Et justement, puisqu'on parle d'économie, vous souhaitez favoriser l'implantation de nouvelles sociétés. Alors en ce moment, ça va être un peu plus compliqué.
Ça va être un peu plus compliqué, mais en même temps, nous avons une zone industrielle de la Vaucouleurs qui ne demande qu'à se développer. D'ailleurs, il y a la construction d'un magasin alimentaire, de l'ancienne Grand Frais qui est en cours, qui aurait dû être peut-être livré plus tôt, mais en raison du contexte sanitaire, forcément, il y a eu des retards. Il y aura aussi l'implantation d'un Leclerc.
À la place de Citroën.
Voilà, à la place d'une concession Citroën au boulevard Roger Salengro. Donc vous voyez, la commune, quoi qu'en disent mes adversaires, reste attractive et dynamique, y compris pour des grandes anciennes.
Alors on va parler du cadre de vie maintenant. Vous exigez un nouvel exécutif à la communauté urbaine. Alors ça, j'ai un peu envie de vous dire, ça va arriver quoi qu'il arrive, puisque le président de la communauté urbaine, M. Totou, arrête, et que la communauté urbaine exerce pleinement ses compétences.
Oui, mais au-delà des hommes, hein, moi je n'ai rien de personnel contre Philippe Totou, ce qui compte c'est l'esprit avec lequel la collectivité sera dirigée. Je pense que un des défauts de Philippe Totou et de son exécutif, c'est d'avoir voulu faire de tout. Et le problème, c'est que parfois, quand on essaye de faire de tout, bah, finalement, on ne fait rien. Je pense que la politique, c'est déterminer des priorités et notamment dans des contextes financiers contraints, et c'est le cas de la communauté urbaine. Et le problème, c'est qu'en plus, la CUGPSCO a voulu récupérer des compétences facultatives, comme la voirie par exemple, et au final, on se retrouve avec cette compétence donc qu'on a dû transférer et qui a été mal gérée tout du moins au début, même si ça va mieux. Hein. Pour être honnête, ça va mieux. Mais par exemple sur l'éclairage public, il y a encore qui fait partie de la compétence voirie de manière globale, il y a encore des gros soucis. On s'est retrouvé parfois pendant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, ce qui est très étonnant, dans le noir dans certaines rues de Mantes-la-Ville et dans d'autres communes de la collectivité Grand Paris Seine-et-Oise. Et pour moi, c'est totalement inacceptable. Donc soit ils conservent cette compétence et ils rendent un service public digne de ce nom, un service au public digne de ce nom, soit ils rétrocèdent cette compétence auprès des collectivités, des communes.
Des communes, vous êtes pour ça?
C'est l'un ou l'autre.
C'est peut-être ce qui va se passer. Hein.
Ça a été un peu le discours, oui, de Philippe Tautou lors d'un conseil communautaire qui a eu lieu un peu exceptionnel, hein, un peu bâtard, si j'ose dire, puisqu'il y avait à la fois des nouveaux élus du premier tour,
oui,
et des élus encore en fin de mandat, comme moi, par exemple, puisque le second tour n'avait lieu qu'à la fin du mois de juin. Et effectivement, je pense qu'ils ont tenu sur ces sujets-là un discours très modeste, qui est le bienvenu, parce que franchement, tout n'a pas été parfait, c'est le moins que l'on puisse dire.
On va parler d'un projet qui vous tient à cœur, c'est l'éducation et la construction du groupe scolaire Brochon de Villiers, qui est une de vos priorités.
Oui, le scolaire a été la priorité du mandat passé, et ce sera encore une des priorités du mandat à venir, puisque je rappelle que c'est quand même une des principales compétences communales, le scolaire. On se doit d'accueillir et de scolariser les enfants mantes-villois de la maternelle à l'élémentaire dans les meilleures conditions qui soient. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait de très gros investissements, près de la moitié, hein, sur 30 millions d'euros. Donc 15 millions d'euros dépensés en 6 ans sur le scolaire. Et je m'engage à dépenser peut-être encore davantage, parce que il est nécessaire de construire une nouvelle école à Mantes-la-Ville.
Là où vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire, c'est l'endroit.
C'est la localisation c'est qui la localisation. Pose problème. Moi, je pense que j'ai répondu sur cette question là en long et large et en travers. Mais le problème de Samy Damergy, c'est qu'il ne propose pas de solution alternative.
C'est-à-dire pour lui, c'est Mantes Université.
Oui, mais quelle parcelle?
Ah ça, voilà. On lui demandera demain.
Vous lui demanderez, mais le problème, c'est qu'il sera incapable de vous dire, de vous donner une parcelle précise. Moi, je peux vous le dire, vous regardez sur le cadastre, c'est la parcelle à M52, voilà. C'est-à-dire rue du Mai 45, sur le site de l'ancienne piscine municipale. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs étonnant que ce site ait fait polémique dans la mesure où il y avait auparavant un équipement public, une piscine municipale. Canette Pelvast avait fermé, d'ailleurs. Elle a fermé beaucoup de choses sous son mandat, dont cet équipement public. Eh bien, moi, je propose de remettre un équipement public important avec cette école. Je rappelle que, voilà, il y a eu, dans les dernières années, dans les 10 dernières années environ, près de 30% d'effectifs scolaires en plus, alors que la dernière école à avoir été construite, c'est l'école maternelle des Courtures en 1985. Je rappelle aussi que nous avons dû faire face au dédoublement des CP et des CE1 dans les écoles REP, ce qui signifie des besoins supplémentaires en matière de locaux. Donc vous voyez, il est indispensable de construire, et le plus rapidement possible, une nouvelle école à Mantes-la-Ville. Et c'est ce que je propose, et je suis le seul à le proposer.
Alors, deux questions avant de finir cette émission. Sécurité, vous souhaitez terminer le développement de la police municipale en une minute?
Oui, bah écoutez, le nouveau poste de police municipale qui sera situé rue du Val-Saint-Georges est en cours d'élaboration. Il sera terminé dans quelques semaines. Voilà, moi je veux que mes policiers municipaux puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc ce nouveau local sera trois fois plus grand que le précédent et sera de plein pied. Puisque l'actuel poste de police est un pavillon de 90 mètres carrés avec un étage. Et pour les usagers, ce sera aussi, je pense, un grand bénéfice. Et je souhaite aussi, durant ce mandat, développer cette fois l'effectif. Une fois que nous aurons ce local nous permettant d'accueillir des nouveaux policiers, il faut maintenant travailler à développer cet effectif. Et moi, je veux une vraie police municipale et pas pour assurer la tranquillité publique et pas confier des missions de sécurité à des associations, à des grands frères ou à des médiateurs comme le propose mon adversaire.
Dernière question au chapitre santé. Vous voulez terminer la maison de santé, faciliter l'arrivée de nouveaux professionnels de santé. Alors ça, c'est tous les candidats que je reçois de n'importe quelle ville veulent faire ça. Comment on y arrive ?
Oui, bah écoutez, je n'ai pas attendu personnellement la crise sanitaire du Covid-19 pour m'intéresser à la santé. Notre premier objectif, c'était effectivement de construire une maison de santé dont la ville resterait propriétaire pour proposer aux médecins libéraux, notamment à des médecins généralistes, des loyers attractifs. Parce que voilà, nous sommes dans un désert médical, pas seulement Mantes-la-Ville, hein, mais
le Mantois
de manière générale. Et le problème, c'est que quel que soit le maire en place, les médecins ne viendront pas pour les beaux yeux des élus locaux. Donc il faut être capable de les attirer, et notamment en proposant des locaux à loyer modéré ou éventuellement même des logements hein, pour les jeunes médecins qui viendraient terminer leurs études et quitteraient le foyer familial. Moi, je suis prêt, je m'engage à proposer à ceux qui le voudraient des logements à loyer modéré.
Merci Cyrino d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h. Vous retrouverez l'intégralité de ces interviews sur le www.bpmlaradio.com. Demain matin, nous recevrons le dernier candidat en liste pour Mantes-la-Ville, Samy Damergi. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2020.